Tribu, Julien Magnolet.
Bonjour et bienvenue dans Tribu. Nous allons nous pencher ce matin sur la manière dont nous pensons et surtout sur notre sens de la morale. Alors nous allons parler de sujets sérieux, hein, l'euthanasie, l'avortement, la gestation pour autrui. Et nous allons évoquer entre autres Kant, Emmanuel, le grand philosophe, mais en parlant, et oui aussi entre autres de télévision, de séries télé et de cinéma, car oui, ces univers de fiction foisonnent de dilemmes moraux. Bonjour Marianne Chaillon.
Bonjour Julien.
Vous enseignez la philosophie dans un lycée à Marseille. Vous avez écrit de nombreux ouvrages faisant le lien entre la culture populaire, Harry Potter, Game of Thrones et la philosophie. Et votre livre qui va nous intéresser ce matin s'appelle « Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ?» C'est paru aux éditions Équateur. C'est un titre un peu intriguant comme ça. « Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ?» Vous pensez que les gens ne connaissent pas leurs propres valeurs ?
Eh bien, écoutez, ça paraît en effet surprenant. Se connaître soi-même, quoi de plus facile a priori ? N'est-on pas la personne la mieux placée pour savoir ce que l'on pense ? Et pourtant, je constate en moi-même, devant mes étudiants, devant mes élèves, qu'il y a souvent une distorsion entre nos prises de position sur les sujets d'éthique, ce que l'on dit vouloir, ce à quoi l'on dit être favorable, et nos principes moraux profonds. Il y a souvent une distorsion inconsciente entre les deux, et justement le but de mon livre est de mettre à jour cette distorsion, et puis dans cette confusion dans laquelle j'espère mettre le lecteur, lui permettre de mettre en ordre sa pensée.
Marianne Chaillon, vous annoncez, vous voulez introduire de la raison sans céder à la panique morale. Il y a des sujets chauds que vous abordez dans ce livre, notamment la procréation médicalement assistée, l'euthanasie, la gestation pour autrui et l'avortement. C'est d'ailleurs le sous-titre de votre ouvrage. L'idée, c'est quoi? C'est que vous avez l'impression que les gens, en fait, des fois, ne sont pas conséquents dans la manière dont, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent vraiment, ils se mélangent les pinceaux de différentes morales. Vous mettez un peu d'ordre dans les différentes morales et manières d'envisager la morale et l'éthique?
Alors, sans vouloir du tout paraître présomptueuse, j'ai constaté comme vous, j'imagine, en regardant les actualités, qu'à chaque fois qu'un sujet, en tout cas en France, quand un sujet d'éthique est sur le tapis, rien ne se passe de manière apaisée. On pourrait s'attendre à des échanges ouverts, rationnels. Eh bien, pas du tout. Ce à quoi nous assistons, ce sont des joutes oratoires, des prédictions catastrophiques. Si vous réfléchissez, si vous vous rappelez, aucune des lois d'éthique en France ne s'est passée dans la quiétude. Rappelez-vous en 2013 de la loi pour le mariage pour tous, à quoi n'a-t-on pas assisté? Mais c'était déjà vrai en 1975 pour la loi Veil. Que n'a pas subi la pauvre Simone Veil lorsqu'elle a fait voter sa loi? Et si on recule encore, en 1965, Lucien Neuwirth, sénateur, fait voter une loi qui permet d'utiliser la pilule contraceptive. Eh bien, le pauvre homme, que n'a-t-il pas entendu? Il fallait le traduire devant la Haute Cour de justice. Je veux dire qu'à chaque fois qu'un sujet d'éthique est posé dans les débats publics, au lieu d'avoir, de façon très légitime d'ailleurs, des opinions diverses qui s'expriment de manière rationnelle et apaisée, on a surtout des conflits plutôt passionnels. Alors l'ambition de mon livre, c'était d'essayer de réintroduire un peu de raison dans ces débats-là, certainement pas de dire aux gens quoi penser, hein, que vos auditeurs se rassurent. Ce n'est pas un livre idéologique dans lequel je proposerai une réponse définitive, univoque sur ces sujets très complexe. Ce n'est pas un livre qui est une sorte de prêt-à-porter moral, mais c'est un livre qui est vraiment fait pour que les lecteurs s'interrogent eux-mêmes. Tiens donc, qu'est-ce que je pense en vérité de ces choses-là? Est-ce que je suis cohérent sur mes prises de position? Et leur donner le matériau rationnel pour pouvoir expliquer leur pensée de manière pacifiée et du coup plus audible d'ailleurs.
Marianne Chaillon, il y a deux grandes familles que vous abordez, hein, de la question de la morale. Il y a la morale minimaliste et la morale maximaliste. Est-ce que vous pouvez expliquer ces deux grandes familles?
Oui, alors, en fait, la différence entre ces deux grandes familles repose sur votre idée à vous, à vos auditeurs. Est-ce que vous pensez que ce que l'on fait à autrui et ce que l'on se fait à soi-même a la même importance morale? J'explique. Si je fais quelque chose à autrui sans son consentement, il va de soi que c'est immoral. Par exemple, Julien, si je pouvais vous sauter dessus à l'instant et vous couper l'oreille sans avoir eu votre accord, on est d'accord, ça serait parfaitement immoral. Maintenant, si moi j'étais arrivée dans ce studio, en m'étant coupé l'oreille, moi-même, est-ce que vous jugeriez cela immoral ? Voilà, si vous répondez que ce que l'on se fait à soi-même a la même valeur que ce que l'on fait à autrui, si vous vous dites que dans un cas je vous ai fait du tort, mais dans l'autre cas je me suis fait du tort aussi, et donc c'est immoral, vous êtes maximaliste. Vous faites une symétrie entre ce que l'on se fait à soi-même et ce que l'on fait à autrui. Mmh. Si vous pensez que ce que l'on se fait à soi-même n'a aucune valeur morale, puisque on a a priori consenti, puisqu'on se le fait à soi-même, eh bien alors vous êtes un minimaliste. Et ça change tout. À quoi ça sert de savoir si on est maximaliste ou minimaliste? Mais ça va changer beaucoup de choses à vos prises de position en matière d'éthique.
Vous avez l'impression qu'aujourd'hui on est plus maximaliste ou minimaliste dans la manière dont on envisage la morale?
C'est difficile à dire. Je crois entendre les deux camps s'exprimer, mais pour ce qui est de la France, la loi est plutôt maximaliste, puisque par exemple, elle va interdire, elle interdit la prostitution en France. Mmh. L'euthanasie n'est pas légale en France non plus. C'est une manière d'interdire aux gens de décider pour eux-mêmes. Un minimaliste dira que se donner la mort à soi-même n'a aucune commune mesure morale avec le fait de tuer quelqu'un. Donc dans un cas on a affaire à un meurtre, dans l'autre cas ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas en tout cas un crime moral, puisque j'y ai a priori consenti, étant moi-même et à la fois celui qui me donne la mort et celui qui est tué. Donc voilà, c'est la loi est plutôt pour l'instant, maximaliste en France.
Mais ce qu'on s'inflige à soi-même peut aussi avoir des sortes de conséquences, en tout cas un impact sur les autres personnes. Vous avez parlé de la prostitution, on peut parler... On a une émission qui rejoignait un peu ces thématiques avec Daniel Borio sur disposer de son corps. Oui. Thématiques aussi comme le voile, lui il évoquait le voile, il disait mais finalement c'est une question personnelle, etc. Mais on peut dire le voile, on peut entre guillemets s'infliger, pour certaines c'est pas s'infliger, c'est se décorer ou suivre des préceptes, mais ça a aussi un impact sur visuellement, de la même manière, enfin pas que visuellement, et même moralement, diront certains. Donc c'est pas juste qu'un acte qui concerne que son petit soi dans un petit placard que personne ne voit, disons.
Alors, vous poussez la morale minimaliste dans ses retranchements et vous dites, bon, c'est bien de défendre une liberté pour ce que l'on se fait à soi-même. Je vais répondre à votre question. Je précise aussi que quand on est minimaliste, non seulement ce qu'on se fait à soi-même n'a pas de valeur morale, mais ce que deux adultes consentants se font entre eux n'a pas non plus de valeur morale. On y reviendra peut-être. Mais pour répondre à votre question, le minimaliste répondra que la seule limite à nos actions est de ne pas causer du tort à autrui. Et là, il va distinguer le minimaliste, en l'occurrence le philosophe minimaliste, le fondateur de cette doctrine s'appelle Ruvanogien. Il a écrit de nombreux livres que vos auditeurs pourront découvrir ou relire avec plaisir, comme Mon dîner chez les cannibales ou de l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. Et dans ces livres, il distingue entre l'offense et le préjudice. Ce qui n'est pas pareil. Et il défend un droit d'offenser. Quelle est la différence? Du coup, l'offense, c'est une parole, un acte, une image qui vont choquer ou scandaliser des individus particuliers, mais qui ne va pas leur causer de dommages concrets. C'est-à-dire qui ne va pas porter atteinte aux biens, aux personnes, à leur réputation. Ça, il faut défendre, pour un minimaliste, la liberté d'offenser. En revanche, et par contraste, un préjudice, c'est une parole, un acte, une image qui va causer un dommage concret à des individus particuliers. Et ça, c'est la limite, évidemment, de ce que l'on peut faire à soi-même ou à autrui.
Alors, on va pas faire tout Ruvanogien, mais c'est compliqué, hein, parce que la liberté, ça me fait penser à la fameuse lettre ouverte parue dans Le Monde, la liberté d'offenser, qui était revendiquée par Catherine Deneuve et d'autres. C'est compliqué, parce que à partir de quand on estime qu'on est véritablement touché ou on a un véritable préjudice, parce que ça peut être quelque chose de nouveau, moral, une insulte, peut être extraordinairement blessante, sans même que la personne ne soit touchée de son intégrité physique. C'est compliqué de trouver la frontière.
C'est compliqué, c'est vrai. Et j'aime bien les débats que j'ai avec mes étudiants quand je fais ce cours. Et par exemple, l'objection qu'ils font tout de suite, c'est de m'interpeller personnellement, comme si j'étais moi-même Ruvanogien, mais je ne fais qu'expliquer sa philosophie. Il me dit, c'est bien gentil de défendre la prostitution, mais si votre sœur se prostituait, ne connaîtriez-vous pas un préjudice ? Et là, réfléchissons. Pour un minimaliste, si je me prostituais moi-même, cela n'aurait aucune importance morale. Si ma sœur se prostituait, eh bien, sans doute, je serais sans doute, je dis pas que c'est le projet de vie que j'ai conçu pour elle, sans doute, mais il faudrait que je respecte, quand bien même son choix m'offenserait-il, il faut que je respecte ce choix-là, car il ne me porterait pas préjudice. Cela me porterait préjudice, à la limite, si ma sœur se prostituait en utilisant mon nom, par exemple. Là, il y aurait un préjudice. C'est délicat, mais le minimalisme, le nom a l'air de dire que c'est minimal, c'est très peu, mais en fait, ça exige beaucoup. Ça exige beaucoup, c'est une éthique très exigeante. Ça nous demande beaucoup de tolérance à l'égard des manières de vivre de chacun et des choix de chacun.
Il y a une autre morale que vous présentez de manière tout à fait claire et intéressante, c'est la morale conséquentialiste. Et celle-là, le mot paraît un petit peu bizarre comme ça, mais on l'utilise vraiment quasiment tous les jours. Expliquez-nous, c'est vraiment le fait qu'on envisage une action en fonction des conséquences que celle-ci va engendrer.
C'est ça. Alors, dans la morale maximaliste, donc l'autre continent, il y a deux familles, pour ainsi dire, et soit vous êtes un kantien, soit vous êtes un conséquentialiste. On est conséquentialiste quand on considère que la valeur morale d'une action repose sur les conséquences de cette action, et non pas sur l'intention que j'avais au moment où j'ai engagé cette action. Je vais prendre un exemple concret et d'actualité, sans spoiler vos auditeurs, puisque vous évoquiez à juste titre tout à l'heure que si les questions que j'aborde dans le livre sont très sérieuses, j'essaie de les aborder non seulement avec humour, mais aussi en ayant recours à la pop culture, et donc par exemple aux séries télé. Je suis sûre que vos auditeurs regardent cette série qui s'appelle Game of Thrones. Et dans Game of Thrones, qu'il ne change pas d'antenne, je ne révélerai rien du dernier épisode que je n'ai pas encore vu. Mais dans la saison 1, on a un personnage qui s'appelle Jaime Lannister et qui est surpris au moment où il a une relation incestueuse avec sa sœur par un jeune garçon. Et il ne sait pas quoi faire de ce garçon qui va sans doute trahir le secret. Et comme vos auditeurs se rappellent, Jaime Lannister choisit de tuer le jeune homme en le poussant du haut d'une tour. Bon. Il ne mourra pas, c'est sûr, mais lui-même fait le choix de le tuer. Si nous avions eu Emmanuel Kant et le philosophe conséquentialiste qui s'appelle Jeremy Bentham derrière la télé en train de regarder Game of Thrones, Kant aurait été horrifié car pour lui un meurtre est moralement injustifiable, quelles que soient les conséquences, alors que Bentham aurait dit « voilà quelqu'un de morale, écoutez bien, de morale, cet homme qui tue un enfant, mais pourquoi est-il moral ?» Car ce qui compte, ce sont les conséquences de l'action. Je prends un cas limite, volontairement, pour vous montrer. Jaime va tuer cet enfant, mais en tuant cet enfant, qu'est-ce qu'il vise ? Il espère que ne sera pas divulgué un secret qui, par sa publication, aurait certainement engendré des milliers de morts. Et donc le raisonnement de Jaime est le suivant. Soit je tue une personne, soit ce sont des milliers qui meurent. Et il fait le choix d'en tuer un. Les auditeurs qui connaissent Game of Thrones m'auront compris. Pour les autres, je m'excuse, mais je crois que vous avez compris que là, ça se résume à un calcul arithmétique. Et parfois, eh bien, la fin justifie les moyens. Le meurtre est, pour un conséquentialiste, justifiable si les conséquences qui en découlent sont favorables. J'ai pris un exemple limite, mais il y a plein d'autres cas où, donc, un conséquentialiste va faire une sorte de pesée au moment de la délibération morale et va envisager. Alors le but d'un conséquentialiste, c'est la promotion du bonheur pour le plus grand nombre de personnes. Et donc il va se livrer à un calcul d'utilité. Quelle est l'action la plus utile pour le bonheur du plus grand nombre ? Et ça va amener parfois à poser des actes comme celui que j'ai évoqué.
On connaît nombreux dictateurs et autres potentats qui ont utilisé, ou même certaines idéologies, la question de la fin qui justifie les moyens. On peut parler de certains durant le communisme, d'autres idéologies, dire voilà, oui mais bien sûr on tue à l'aide 10 000, on déporte 50 000, 600 000 personnes, mais c'est pour le bien finalement d'une immense majorité, donc ça vaut la peine, et ça vaut pour des grands schémas, mais aussi des petits schémas. C'est vraiment quelque chose qui est fortement utilisé, cette idée que la fin justifie les moyens.
Oui, voilà. Alors, c'est ça, c'est vraiment cette idée. Mais alors, attention, il faut que le bonheur qui résulte de l'action engagée soit intense, soit durable, soit fécond, touche à un certain nombre de personnes. Évidemment, on ne peut pas promouvoir n'importe quelle valeur comme étant un bien. Il y a tout un calcul très rationnel de ce qu'est un bien et de ce qu'est le bien chez les conséquentialistes. Mais en tout cas, l'idée importante à retenir, c'est que dans le cadre de cette morale-là, ce qui compte, ce sont les conséquences favorables pour le plus grand nombre de personnes. Donc, par exemple, un conséquentialiste serait pour la légalisation de la gestation pour autrui. Parce que si un kantien, on y viendra sans doute, s'opposerait à cette instrumentalisation du corps de la femme, un conséquentialiste dira « Bon, ne touche-t-on pas favorablement un certain nombre de personnes qui, grâce à cette action, vont connaître le bonheur d'une naissance qu'ils n'auraient pas connue sans cet acte-là » Le conséquentialiste sera donc favorable.
Marianne Chaillot, nous faisons un peu de morale avec vous ce matin. On vous retrouve juste après Sarah McKenzie.
Tribu jusqu'à 11h30 sur la première.
What have you done to me? Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ya. The music plays with me. I never meant to walk your way. And then one day love walked my way. And now I'm all la 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 la. Pa-ra-pa-pa-pa. Qua 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 qua. Qua 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 qua. Qua, 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 qua. What is the meaning of pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ya? The rhythmic feeling of I never thought I'd get the call or that I'd ever dance at all. But now I'm all la 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 pa-ra-pa-pa-pa. Qua 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 qua. Oh, je ne sais quoi. The truth in life is what will be, will always be. So don't go forcing love, just wait and then you'll see. Qua, 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 qua. A win, a woe, a way now. Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ya. A win, a woe, stay now. I never thought I'd ever see another singing just like me. La pa 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 pa, qua 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 qua, je ne sais
quoi, quoi, quoi. C'était Sarah McKenzie. On vous retrouve, Marianne Chaillot. Nous parlons de notre morale, de nos morales avec vous ce matin. On parlait de cette morale conséquentialiste avec vous ce matin. C'est vrai que les films jouent beaucoup de ça. Vous, et les séries aussi, vous parlez dans votre livre de 24 heures chrono où c'est toujours un peu, il y a très souvent ces dilemmes moraux. Vais-je sauver mon enfant innocent ou désamorcer la bombe qui tuera 5 millions de personnes à Los Angeles? C'est vraiment un ressort dramatique et narratif très fort dans les fictions.
Oui, c'est vrai. Et alors cette série 24 heures chrono, je pense, fait expérimenter à ses spectateurs exactement cette distorsion dont nous parlions au début, puisque je me rappelle moi-même avoir été surprise, voire choquée de ma réaction comme spectatrice, prise dans le suspense d'encourager des actes atroces avec lesquels je suis théoriquement en désaccord. Donc on voit que parfois il y a cette distorsion que des séries ou des films nous permettent de mettre à jour. Il y a une série passionnante, peut-être un peu moins connue que 24 heures chrono, qui s'appelle The Good Place. Alors cette série, je la conseille vraiment à vos auditeurs. On a dans cette série un personnage qui est un professeur de philosophie morale justement, et qui donne, mais c'est vraiment très ludique, je rassure tout le monde, des petits cours comme ça de philosophie morale très intéressants. Je voudrais revenir sur quelque chose que nous disions avant l'extrait musical. Je disais que les conséquentialistes promeuvent des conséquences utiles au bonheur du plus grand nombre. J'aurais dû ajouter aussi, promeuvent aussi la diminution des souffrances. C'est-à-dire que ils sont donc pour la GPA. J'ai essayé de donner un exemple concret, hein, au nom de la promotion du bonheur pour le plus grand nombre de personnes. Voilà. Mais ils vont aussi être pour l'euthanasie. Et là, on pourrait se dire, mais où est le bonheur là-dedans, puisque le sujet finit par mourir? Mais c'est que, symétriquement, ils promeuvent aussi la diminution des souffrances. Hein, on essaie de favoriser au maximum le bonheur, comme de minimiser les souffrances. Et donc, l'euthanasie serait totalement moralement acceptée par un conséquentialiste, ce qu'elle n'est pas pour un kantien, toujours au nom de cette idée qu'il est totalement immoral de donner la mort à quiconque, et y compris à soi-même.
Marianne Chaillant, dans le fond, votre livre se veut comme une boîte à outils, hein, se connaître un peu mieux la manière dont on pense, sur quelles valeurs on se fonde, à quelle famille de morale on appartient, mais après, est-ce que ça nous aide de savoir que je suis maximaliste ou minimaliste, que je suis conséquentialiste, donc je suis plutôt Kant ou plutôt Bentham, est-ce que ça m'aide à faire des choix ou ça m'aide à dire, attention, il faut que je sois conséquent dans mes choix?
J'espère que ça aide, en tout cas c'était mon but, c'est-à-dire d'abord de permettre à chacun de se mettre en cohérence, et vraiment ce n'est pas mépriser du tout vos auditeurs ou mes lecteurs que de dire cela, car moi-même je me rends compte que je suis souvent déchirée, nous sommes déchirés dans nos choix éthiques, donc ça permet de les rationaliser, ce qui n'est pas du tout évident puisque ce sont des sujets extrêmement émotionnels, de les rationaliser. Ça, du coup c'est mon premier objectif. Le second, tout aussi important à mes yeux, est d'être bienveillant envers ceux qui ne pensent pas comme nous. Et donc de comprendre qu'il y a un pluralisme moral. Mmh. Et de comprendre que chacun a de bonnes raisons de penser ce qu'il pense. Et du coup, peut-être, de ne pas chercher, par la loi, à imposer aux autres notre propre système moral. Vous voyez, et c'est d'ailleurs la conclusion de mon ouvrage, c'est que, quel que soit votre système moral, tous ces philosophes-là font bien une distinction entre la morale et le droit. Il y a ce qu'on pense, que chacun pense sur le plan moral, et puis il y a la sphère du droit. Est-ce que le droit doit choisir pour tous quelles sont les valeurs morales à promouvoir? Cela n'est pas du tout évident. Mmh. Est-ce que la fonction du droit n'est pas précisément de permettre à chacun de vivre en fonction de ses principes moraux.
Il y a aussi quelque chose que vous dénoncez dans ce livre et ailleurs, c'est la question des pentes glissantes ou les pentes savonneuses. C'est très très souvent utilisé, notamment dans le discours politique, hein, lorsqu'on parle des questions éthiques. Ben, c'était pour la question pour le mariage pour tous. Je crois que vous citiez, si on peut épouser une personne du même sexe, alors on finira par épouser son chien. Cette espèce de pente inéluctable, au fait, c'est tout d'un coup ça descend de toute façon.
Mais oui, mais j'allais dire, c'est rigolo si ce n'était pas tragique, en vérité. Ces pentes fatales, vous avez raison, elles inondent les débats, en tout cas en France, hein, les débats d'éthique. Et voyez bien qu'il n'y a pas de rationalité là-dedans, puisqu'une pente glissante, ça consiste à poser que si l'on accepte un fait, par exemple donc le mariage pour tous, alors nécessairement nous en viendrons à un autre fait Y. Donc la zoophilie, pourquoi pas, voilà, c'était ça l'idée. Et cet argument-là, les gens l'utilisent, pourquoi? Sinon pour susciter une panique morale, ce qui n'est pas du tout productif pour les débats d'éthique. Et effectivement, ça a été utilisé dans le cadre du mariage pour tous, mais on l'a entendu aussi sur la question de l'euthanasie. Certains disent, si on légalise l'euthanasie, alors on abrégera nos grands-parents pour hériter plus vite. Ou alors, les médecins tueront leurs patients pour libérer des lits dans les hôpitaux. Mmh. On l'a entendu aussi à un moment des débats sur la loi de Simone Veil. Si on autorise la...
Ah, Marianne Chaillant, on vous entend plus. Je vais voir si vous revenez.
Voilà,
on a juste une petite coupure. Excusez-moi.
Cette espèce de sophisme, de dénaturation du raisonnement, qui montre bien qu'on est dans la sphère des passions et pas du tout dans la sphère de la raison.
Est-ce que vous dites aussi, vous parlez de la version Kant, vous dites que vous citez beaucoup Kant, le grand moralisateur en chef quasiment, et vous dites il sert tout le temps de caution philosophique aux exigences les plus répressives en matière de loi éthique, c'est à tort. Alors je crois, Marianne Chaillant, qu'on a malheureusement perdu la ligne avec Aix en Provence. Je regarde du côté de la technique. Il lève les bras au ciel et relève ses lunettes. Donc ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas de connexion. Non, je crois qu'on va devoir en rester là ou mettre un titre. Mathias Brunimann, que fait-on? Un titre ou est-ce qu'on arrive à se reconnecter? Bon, on arrive de toute façon déjà à la fin de cette émission. Alors on va en rester là, ouais. On va en rester là. Bon, on va quand même remercier Marianne Chaillant. Même, on la remerciera mieux après au téléphone. En tout cas, on arrivait quasiment au bout de cette émission. Merci beaucoup, Marianne Chaillant. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie au lycée, auteur de plusieurs ouvrages, hein, de vulgarisation sur la pop philosophie. On parlait d'Harry Potter, Game of Thrones, même un livre sur la philosophie et Amélie Poulain. Et ce livre dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser? C'est paru aux éditions Équateur. Bonne suite de journée à vous. Même si vous nous entendez bas, peut-être que par les ondes, ça passera. Merci beaucoup à Mathias Brunimann qui a eu beaucoup à faire ce matin et à Damien Marsala du côté de France Bleu Provence. Tous deux étaient à la technique. Demain, nous parlerons du langage inclusif. Mais là, à presque 11h30, il est temps pour vous de retrouver Laurence Bizang et ses décodeurs. Je souhaite à toutes et à tous une excellente suite de journée.
Tribu, Julien Magnolet.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute Genève-Lausanne, le sac perdu entre l'échangeur du Vengeron et Nyon a été récupéré. On ne signale plus de danger sur les voies de circulation en direction de Lausanne.